Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, Kharkiv bombardé, Odessa et Mariupol encerclés, Kiev quasi cerné. L'attaque russe prend une ampleur encore plus effrayante en ce sixième jour de guerre. Londres avertit Vladimir Poutine, il sera tenu pour responsable en cas de crime de guerre. Le président ukrainien, devant le Parlement européen en visioconférence il y a quelques minutes, ne nous lâchez pas, dit-il. Applaudissements nourris, très nourris des députés européens. L'ambassadeur de France quitte Kiev, plus de 500 000 réfugiés en dehors d'Ukraine, 1 million de déplacés dans le pays. Les sanctions internationales vont-elles être durcies ? Le ministre français de l'économie.
Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie.
Bruno Le Maire qui met la pression sur Total, présent en Russie. Problème de principe, dit-il. Nous verrons comment l'accueil des premiers réfugiés en France s'organise. Réunion au ministère de l'Intérieur en ce moment même. Dans la chronique, cette prise de position de Gérard Depardieu, connu pour ses sympathies pro-Poutine. Je suis contre cette guerre fratricide. Arrêtez les armes. L'Ukraine, sixième jour de guerre, un tour encore plus violent. Ce sera à nouveau une très longue page de ce journal. Puis à 13h30, tout autre sujet. Que retenez-vous du quinquennat d'Emmanuel Macron? Alors que son entrée en campagne est imminente, nous recevons une journaliste qui a suivi ce quinquennat presque minute par minute, Laurence Benhamou, pour l'agence France Presse. Elle est accréditée à l'Élysée. Elle raconte ses 5 ans dans un livre qui fourmille de détails. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions et interventions. On parlera bien sûr des rencontres Macron-Poutine, évidemment. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Les députés européens debout, des applaudissements très très longs. Le président ukrainien vient de s'exprimer devant le Parlement européen. Le visage de ce jeune chef de guerre en visioconférence dans la Grande Assemblée de Bruxelles réunie en session extraordinaire est une image marquante de ce jour, extrait de son intervention.
Nous nous battons pour nos droits, pour notre liberté, pour notre vie. Et maintenant, nous nous battons pour notre survie. Et ceci est notre motivation la plus importante. Mais maintenant, nous nous battons pour devenir un membre à part entière de l'Europe. J'estime qu'aujourd'hui, nous montrons au monde entier que nous sommes méritant. Avec nous, l'Union européenne sera renforcée. Sans nous, l'Union européenne sera plus faible. Prouvez-nous que vous êtes à nos côtés. Et ainsi, la vie emportera sur la mort. Gloire à l'Ukraine.
Et Volodymyr Zelensky termine son intervention le point levé. Ne nous lâchez pas, dit-il aux députés européens. On retrouvera Angélique Boin tout à l'heure en direct de Bruxelles parce que la présidente de la Commission européenne prend la parole après Volodymyr Zelensky. Peut-être de nouvelles annonces. Et cette prise de parole se fait dans un contexte très grave car une nouvelle phase de l'offensive russe en Ukraine, encore plus violente et destructrice, a commencé. Kharkiv, deuxième ville du pays à l'est, près de la frontière russe, 1 400 000 habitants, était sous les bombes ce matin. La préfecture régionale touchée, le risque de victimes civiles est particulièrement élevé. Selon le gouverneur régional apparu sur les réseaux sociaux, en casque et gilet pare-balles, des missiles ont touché le centre, l'hôtel de ville, des zones résidentielles. Et à Kharkiv, Rémi Brancato a joint ce matin Alice Novak. Elle a 24 ans, elle est ukrainienne. Elle travaille à l'Alliance française dans la ville. Ils sont 4 dans son appartement, 10e étage d'un immeuble.
Ce matin, je suis réveillée à cause des tirs. Soit c'était les grades, soit des smierches, c'est des lance-roquettes qu'on tire. Et comme j'habite pas loin du centre, je les ai très bien entendus. Aujourd'hui, c'est le centre-ville qui est le cible essentiellement. Ils détruisent les endroits historiques, ils tuent les civils. Ils luttent pas contre les militaires, ils terrorisent les civils. Et à cause de ça, chaque jour devient de plus en plus effrayant.
Ces bombardements se rapprochent.
Il y a des maisons, vraiment, maisons voisines de mon immeuble qui ont été touchées. Je vois, par exemple, de ma fenêtre, un balcon un peu détruit. C'est pas encore une ruine, mais quand même mon quartier est partiellement touché. C'est pas comme sur la place de Liberté qui a l'air d'un cauchemar aujourd'hui. Mais tout est en danger, tout est touché par des tirs. C'est comme une loterie. Vous voyez, on ne sait pas si on est en sécurité ou non. Peut-être que les gens dans les bunkers, dans le métro, ont plus de chance, mais on ne sait jamais.
Où vous trouvez-vous exactement ? Dans votre appartement ? Est-ce que vous avez pu vous mettre à l'abri ?
Je suis dans mon appartement. Il y a une cave dans ma maison et l'ascenseur ne marche pas. Je suis au 10e étage et nous avons ma grand-mère avec moi qui est vieille, qui ne peut pas bouger rapidement. Donc, s'il faut vite descendre, elle ne pourrait pas le faire. Et notre cave n'est pas sûre. Donc, la seule option qu'on peut choisir, c'est cacher quelque part dans mon appartement ou dans mon étage. Mais il y a toujours un risque. Il n'y a pas d'endroit sûr ici.
Aujourd'hui, l'armée russe s'attaque à des civils à Kharkiv, s'attaque à vous.
Pas concrètement à moi, mais aux civils comme moi. Les gens qui sortent, ils sont en danger. Les gens qui sont chez eux peuvent aussi être en danger à cause des tirs. Ils peuvent facilement terroriser les civils pour mettre en panique et faire tout ce qu'ils peuvent. C'est notre maison. Et même à cause de cette panique, même à cause des gens qui cherchent à quitter la ville, on fait tout pour tenir bon et pour résister à ça. Maintenant, je suis en train de pleurer et hystérie parce que je suis très fatiguée. Mais moi, je crois toujours que ça va finir et on va gagner. On va continuer à résister jusqu'au bout.
Et voilà pour ce témoignage d'Alice Novak, recueilli ce matin par Rémi Brancato. Un premier bilan des bombardements de Kharkiv sont des sources secouristes. Au moins 10 morts dans ce bombardement russe. Le vice-premier ministre britannique prévient Vladimir Poutine. Il sera tenu responsable d'éventuels crimes de guerre. Les bombardements russes à Kharkiv violent les lois de la guerre, dit Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Le constat est là, Nathanaël. L'armée russe bombarde les villes ukrainiennes.
Oui, c'est le président Zelensky qui l'explique. Selon lui, la Russie bombarde intentionnellement les villes en Ukraine, notamment les quartiers résidentiels et les infrastructures civiles, afin de provoquer la panique au sein de la population. Un conseiller de la présidence ukrainienne précise même qu'il s'agit de frappes directes de missiles et d'artillerie, que cela vise aussi des sites administratifs. Une stratégie qui va à l'encontre des promesses de Vladimir Poutine au président français Emmanuel Macron. Hier, le président russe avait confirmé sa volonté d'éviter les frappes contre les civils et les axes routiers. Alors, une stratégie qui concerne de nombreuses villes, vous l'avez dit, Kharkiv, la deuxième ville du pays, qui subit de fortes attaques. Mais il y a aussi Mariupol, qui est privée depuis ce matin d'électricité. On pourrait ajouter également les villes d'Odessa ou encore de Kherson. C'est tout en bas, dans le sud du pays.
Et à propos de ces deux villes, il faut bien regarder la carte, le long de la mer d'Azov. Dans cette région, d'un côté le Donbass, où les Russes sont déjà massivement présents. Même chose de l'autre côté, en Crimée. Ils cherchent en fait à faire la jonction et Mariupol est une ville clé de ce point de vue. Et puis, Nathanaël, tout indique que l'assaut, un assaut massif de Kiev se prépare.
Oui, c'est l'autre point d'inquiétude. Ce sont les photos satellites diffusées par la société Maxmar, une entreprise spécialisée américaine, qui montre une colonne longue de plus de 60 km de blindés et véhicules russes qui descendent en direction de Kiev. Elle se trouverait à 25 km de la capitale, à hauteur de l'aéroport. Et là, on s'attend à une bataille redoutable, car le président Zelensky en fait un symbole. Pour lui, la défense de la ville est sa priorité. Une autre image inquiétante, satellite encore, montre elle un regroupement de forces russes en Biélorussie à 30 km de la frontière ukrainienne. Là encore, on peut voir l'armée se déployer avec des véhicules au sol ainsi que des hélicoptères. Ce qui est certain, c'est que les Russes n'entendent pas reculer. Le ministre de la Défense a expliqué ce matin que les forces armées de la Fédération de Russie continueront l'opération appelée, côté russe, opération militaire spéciale, jusqu'à ce que les objectifs fixés soient atteints.
Et l'ambassadeur de France en Ukraine a quitté Kiev. Le convoi est en route vers Lviv, la grande ville de l'Ouest près de la Pologne, où l'ambassade est délocalisée. Lviv, c'est justement où nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux dans le pays, Boris Loumain. Bonjour Boris.
Bonjour Bruno.
Et même dans cette ville qui n'est pas touchée à ce stade par les combats, eh bien, on se prépare à la guerre. Comment les habitants se préparent-ils à la guerre, Boris ?
Oui, forte mobilisation de la population civile ici. Il y a d'abord les hommes en âge de combattre qui s'inscrivent chaque jour sur la place de la mairie pour rejoindre les rangs de l'armée. Certains n'ont même jamais tenu une arme de leur vie. Il y a également ces usines qui se reconvertissent pour participer à l'effort de guerre. J'étais ce matin dans une usine qui fabrique habituellement des tuyaux en inox. Ce matin, les soudeurs assemblaient des poutres métalliques pour faire barrage aux chars russes. J'ai pu également visiter une brasserie qui désormais produit des cocktails Molotov. Et puis j'ai pu entrer dans une bibliothèque municipale devenue le QG de bénévoles, des femmes, des enfants en train de coudre des filets de camouflage. Voilà donc pour cette mobilisation des civils et pour cet élan de solidarité envers l'armée ukrainienne ici à Lviv.
Ce qui se dessine, Boris, c'est que cette ville est en train de devenir une base arrière, au fond quasiment la capitale de l'Ukraine libre.
Oui, avec l'installation de l'ambassade de France, vous l'avez dit, parce que cette ville, Lviv, ici, est encore préservée des combats et des bombardements. L'État ukrainien est encore présent, la police, les militaires, il y a même des civils qui patrouillent la nuit pour surveiller leur ville. On trouve encore de la nourriture, de l'essence, les transports en commun fonctionnent. Voilà pourquoi cette ville est devenue ce refuge pour les civils, pour certains responsables politiques et donc désormais pour les ambassades.
Boris Loumagne en direct de Lviv pour France Inter. À ce stade, l'Ukraine estime à plus de 350 le nombre de civils tués depuis le début de la guerre, plus de 2000 les blessés. Bilan source ONU très provisoire certainement, 102 tués, 304 blessés. Autre donnée clé, là aussi cela émane de l'ONU, 1 million de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine et 520 000 réfugiés ukrainiens dans les pays frontaliers, plus de la moitié en Pologne. Et en France, l'accueil commence à s'organiser. 6 Ukrainiennes, dont 3 enfants, viennent d'arriver de Kiev dans le Périgord. Arrivées dans la nuit de dimanche à lundi chez Louda, qui habite La Roche-Chalais, à l'ouest de Périgueux. Reportage Jeanne de Butler, France Bleu Périgord.
Même dans la nuit noire, autour de la table du jardin, on peut voir les cernes sous leurs yeux. Natalia et Olga s'excusent, elles ont encore les mains qui tremblent.
Ici, votre vie, elle est tellement tranquille. Nous, jusqu'à présent, on n'avait pas peur de noir. Maintenant, on a peur de noir parce qu'on sait quand la nuit, elle tombe, les bombes, elles commencent à tomber. On a peur qu'ils vont bombarder, on a peur de tout. C'est un réflexe que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas traversé cette route.
Jeudi, le premier jour de l'offensive russe, elles entendent des sirènes, des bombardements, les vitres de leur maison qui se brisent. Au petit matin, elles quittent la ville avec leur brosse à dents et un peu d'argent. 4 jours plus tard, ça y est, elles sont ici, mais leur tête est restée là-bas.
Je ne sais pas combien de temps je peux encore durer parce que je suis épuisée. Et même si je me sais maintenant en sécurité, je ne peux être jamais tranquille tant que cette guerre ne cesse pas parce que toute ma famille et mes proches ont resté au milieu de cette guerre. C'est la peur à tous les moments.
Des matelas ont été installés un peu partout, dans la chambre vide et dans le salon. Le téléphone d'Olga sonne, c'est son mari. Il vient donner des nouvelles du front.
Et le ministre de l'Intérieur réunit en ce moment même place Beauvau les préfets et les services compétents à propos de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Il doit en dire plus en tout début d'après-midi. La réplique en Europe, c'est aussi celle de la France, alors que les sanctions économiques et financières entrent progressivement en application. Écoutez ce que disait Bruno Le Maire ce matin chez nos confrères de France Info.
Je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous voulons viser le cœur du système russe, nous visons Vladimir Poutine, nous visons les oligarques, mais nous visons aussi toute l'économie russe. Et on en voit, comme vous l'avez dit, déjà les effets. Le rouble s'est effondré de 30%. Les réserves de change russes sont en train de fondre comme neige au soleil. Et le fameux trésor de guerre de Vladimir Poutine est déjà réduit à presque rien. On voit l'effondrement du marché. On voit également l'augmentation de l'inflation. Nous allons voir des queues de Russes qui cherchent à avoir de l'argent liquide dans les banques. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
Et le ministre met la pression sur Total et Engie, actifs en Russie. Il y a désormais un problème de principe à travailler avec toute personnalité politique ou économique proche du pouvoir russe. Il doit en discuter avec les dirigeants des deux groupes français. C'est la liberté européenne qui est attaquée, dit Bruno Le Maire, une nation souveraine qui est attaquée et menacée par Vladimir Poutine. Total fait un tout premier geste en affirmant qu'il ne développera pas de nouveaux projets en Russie et continue d'évaluer les conséquences des sanctions occidentales. Ces conséquences, vu par un patron de PME. Il s'appelle Guillaume Dubuis, il est basé à Moscou depuis 30 ans. Il a fondé une société qui conseille et accompagne les entreprises françaises qui souhaitent s'installer en Russie. Il a également une activité d'import de produits pour les parfums. 180 clients dans sa société en tout. Mariam El Kurdi l'a joint ce matin au téléphone.
L'impact économique pour nos entreprises et pour ceux qui sont sur le terrain va être terrible. On sent plus à l'intérieur de la Russie une espèce d'inquiétude, de pause, une espèce de silence. Il y a d'ailleurs très peu de chargements à l'entrepôt et en même temps une solidarité. Nous, on essaie d'envoyer des messages à nos clients. criant à travers toute la Russie de solidarité, non pas sur les actions du gouvernement, mais sur de solidarité personnelle pour l'épreuve que traversent nos amis et nos clients à travers la Russie.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'invasion russe pour vous ?
Tout ce qui est conseil aux entreprises a été gelé. Gros point d'interrogation sur l'avenir. Voilà, on travaille sur un espèce de plan de survie et de réduction au maximum de nos dépenses et de nos effectifs. Et puis on a une deuxième activité qui est une activité de distribution dans le parfum et le parfum maison. Et sur cette activité-là, on a toujours des commandes en cours de nos clients, mais on a bloqué les expéditions, on a arrêté les marchandises qui étaient sur la route en Pologne et en France en attendant de savoir quelles pourraient être les opérations, comment on va faire pour passer les frontières, pour dédouaner, pour transporter, pour payer, pour acheter des devises, pour payer nos fournisseurs. Donc c'est vraiment une situation très très difficile pour nous tous ici et on est en attente. Je vois les dépêches qui tombent les unes après les autres sur les déclarations du gouvernement français de la guerre économique totale avec la Russie et on est très très inquiet.
La bourse de Paris en baisse de 3% à l'instant. Le prix du baril de pétrole Brent au-delà des 100 dollars et ces derniers mots diplomatiques, pas franchement diplomatiques d'ailleurs, pour Londres, l'expulsion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU figure parmi les options sur la table. Angélique Boin, on vous retrouve à Bruxelles. Nous avons entendu un extrait du discours du président Zelensky au début de ce jour. Le moment particulièrement fort. Racontez-nous l'ambiance et les mots-clés de ce discours, Angélique.
Eh bien, le président a commencé par dire, dans un silence extrêmement impressionnant face aux 550 eurodéputés présents, que c'est un mauvais jour pour l'Ukraine. Et pour certains, a-t-il dit, leur dernier jour, je parle des citoyens ukrainiens qui sont des défenseurs de la liberté, qui sacrifient leur vie pour des valeurs que l'on partage. 16 enfants sont morts, ne nous lâchez pas, a-t-il dit, très longuement applaudi. Il a pris la parole devant un parlement bondé dont une grande partie des eurodéputés arborent des t-shirts jaunes et bleus aux couleurs de l'Ukraine. Des femmes ont des vestes jaunes ou des robes bleues. Ils l'ont très longuement salué debout. Je ne savais pas que le prix à payer serait si cher, a-t-il insisté, mais nous allons vaincre. Et devant le Parlement européen, il a ajouté qu'il estimait que l'Ukraine était sur la route de l'Union européenne. Il a appelé les élus à le soutenir dans sa demande de candidature. Juste avant son intervention, dans son discours introductif, la présidente du Parlement, Roberta Metsola, après avoir elle aussi longuement salué le courage des Ukrainiens, ces femmes courageuses obligées d'accoucher aux côtés de leur Kalachnikov dans le métro, a-t-elle dit, eh bien, elle assurait que le Parlement soutiendrait cette candidature de l'Ukraine. Nous sommes à vos côtés. On attend maintenant l'intervention de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
Et lors de cette session extraordinaire du Parlement européen, le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est exprimé il y a quelques minutes.
Ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est attaquée. C'est le droit international, l'ordre international, la démocratie, la dignité humaine qui sont toutes attaquées. C'est du terrorisme géopolitique purement et simplement.
Voilà le président du Conseil européen, Charles Michel. Merci Angélique Boin en direct de cette session extraordinaire de l'Assemblée du Parlement européen. Et donc on attend les mots de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, peut-être de nouvelles sanctions, on verra cela. Un débat sur cette guerre en Ukraine se déroule aussi à l'Assemblée nationale à Paris. À 40 jours du premier tour, la campagne présidentielle a pris un tournant très particulier. Les adversaires de Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon leur reprochent des positions pro-russes. Anne Hidalgo, par exemple, dans l'Express radical, Jean-Luc Mélenchon est devenu l'allié et le soutien de Poutine, dit-elle. Le candidat insoumis s'exprime devant l'Assemblée nationale cet après-midi. Discours important dans sa campagne, Laurence Perron.
On ne prête qu'aux riches. Et Anne Hidalgo, qui voit sa campagne désespérément stationnée entre 1 et 3%, fait donc de la politique en s'attaquant à celui qui, à gauche, fait la course en tête. Avec cet argument, il est en pleine dérive idéologique. Mais si les mots ont un sens, soutien et allié de Poutine, ça, rien ne l'établit. Jean-Luc Mélenchon a été très clair, d'ailleurs, face à Léa Salamé.
Moi, en Russie, je soutiens un homme qui s'appelle Sergueï Oudaltsov, qui a été 4 ans en prison. Monsieur Poutine n'est pas mon modèle. Ai-je l'intention de présider comme Monsieur Poutine ? Non. Ai-je l'intention d'appliquer la politique de Monsieur Poutine ? Non.
Il n'en reste pas moins que sa stratégie de non-alignement, sa diplomatie altermondialiste est plus compliquée à défendre dans le contexte actuel. Jean-Luc Mélenchon est un campiste avec une vision héritée de la guerre froide. Deux camps se font face, les États-Unis avec leurs quelques 5000 ogives nucléaires et la Russie qui, adossée à l'Asie, représente une puissance nucléaire plus redoutable redoutable encore. Il n'est pas dans l'intérêt de la France de jouer, selon les mots de l'insoumis, les bagages accompagnés des Américains. Lui propose une conférence sur les frontières et un dialogue constant avec la Russie en tant qu'État, ce qu'Emmanuel Macron, il le souligne, fait depuis 2017, se souvenir de la réception en grande pompe à Versailles et au fort de Brégançon à l'orée du quinquennat, ce qui n'en fait ni un allié, ni un soutien de Poutine, répètent les insoumis.
Les prises de parole cet après-midi à l'Assemblée, lui n'a pas lésiné au fil des années sur les compliments à Vladimir Poutine. Gérard Depardieu l'appelle à arrêter les armes et négocier. La Russie et l'Ukraine ont toujours été des pays frères. Je suis contre cette guerre fratricide. Déclaration à l'agence France Presse qui marque, Amélie Perrier, une nouvelle étape dans les relations entre la star du cinéma et la Russie.
Et oui Bruno, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, le cœur de Gérard Depardieu penche à l'Est. La semaine dernière encore, dans les colonnes de l'Obs, le comédien français concédait qu'il avait encore la nationalité et un passeport français, mais qu'il était désormais citoyen russe et accessoirement dubaïote. Premier rapprochement, en 2012, Depardieu assiste à l'anniversaire du président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, qui se décrit lui-même comme le fidèle fantassin de Poutine. Depardieu proche également d'autres satellites de Moscou. Il enregistre à cette époque une chanson avec la fille du président ouzbek, lui aussi très lié au chef du Kremlin. Janvier 2013, Vladimir Poutine accorde à Gérard Depardieu la citoyenneté russe. Le président Poutine lui remet en personne son passeport dans sa résidence de Sotchi. Mais c'est bien en France que Gérard Depardieu fait en ce moment même la promotion de deux films, Maigret, sorti la semaine dernière au cinéma, et Robuste, sur les écrans à partir de demain. Alors, est-ce pour éteindre les appels au boycott de ces films ces derniers jours? En tout cas, ces déclarations contre la guerre en Ukraine sont une toute première prise de distance avec Poutine, qu'il comparait jusque-là au pape Jean-Paul II.
Et pour refermer cette longue page ukrainienne, comment parler de la guerre aux enfants? Et comment réagissent-ils? Lucie Thuillet, France Bleu Cotentin, vous êtes allée à la sortie des classes à l'école Beckett à Saint-Lô.
Ici, à la sortie de l'école, ce n'est pas au cœur de toutes les conversations, mais beaucoup d'enfants ont entendu parler de cette guerre en Ukraine. Certains à la télé, d'autres sur les réseaux sociaux, ou tout simplement en discutant avec un camarade du haut de ses 9 ans. Serena nous explique ce qu'elle a vu et compris du conflit.
J'ai vu des images sur le bombardement. J'ai pensé que Vladimir Poutine n'était pas vraiment un bon président. J'en ai parlé dans la classe avec un ami qui a vécu la même chose en Syrie. Et il a dit, si ça continue, et bah, il y aura peut-être une troisième guerre mondiale. Ça m'inquiétait un peu parce que j'ai pas envie que ça vienne un peu vers la France.
Cette crainte, cette interrogation, c'est celle qui revient dans presque tous les témoignages des enfants qui ont eu vent de cette actualité, comme Sacha, 9 ans.
Je me suis inquiétée un peu plus quand j'ai su que c'était plus grave parce qu'ils attaquaient. Je veux pas trop en entendre parler parce que c'est un peu quand même violent et tout ça.
Côté parents, les attitudes divergent selon que les enfants ont été confrontés ou non à ces images de guerre. Exemple avec Mélanie et Hermance.
Ils ont déjà bien assez avec la Covid déjà à gérer à l'école et il n'y a pas d'information, pas d'écran à la maison. Et ça restera comme ça.
Il a vu des images peut-être qu'il n'aurait pas dû voir. C'est un enfant qui est très curieux et qui comprend très vite les choses. Et du coup, j'ai toujours habitué à lui expliquer tout, même le mal malheureusement.
En classe enfin, il n'y a pas eu d'action spécifique. Mais certains enseignants ont pu en discuter avec leurs élèves.
Voilà ce que l'on peut dire en ce 6e jour de guerre en Ukraine. Journée qui marque un cran supplémentaire dans la violence de l'attaque russe. La deuxième ville du pays, Kharkiv, sous les bombes. Premier bilan, 10 morts. D'autres grandes villes encerclées et visées. Elles aussi, un assaut massif qui semble se préparer sur Kiev et l'inquiétude toujours plus grande de la communauté internationale. Le bain de sang doit cesser, dit à l'instant le chancelier allemand Olaf Scholz, et l'appel du président ukrainien devant les députés européens tout à l'heure. Ne nous lâchez pas.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
C'est une nouvelle enquête dans les maisons de retraite, un mois après la révélation du livre Les Fossoyeurs sur les pratiques du groupe Orpea, autour de l'émission de France de Cash Investigation qui s'intéresse au groupe Korian. La journaliste Marie Maurice raconte de l'intérieur la pratique d'un de ses EHPAD. Elle s'est faite embaucher sans expérience ni diplôme. Reportage en caméra cachée à Norrenstein. Le téléspectateur est témoin de l'organisation à flux tendu de l'établissement.
Même si toutes les annonces auxquelles Marie Maurice a répondu exigent un diplôme d'aide-soignante ou au moins une expérience, la journaliste ne va avoir aucune difficulté à signer pour un mois.
Oui, Madame Maurice, bonjour. J'aimerais pouvoir discuter d'un entretien éventuel pour vous proposer des remplacements.
Embauchée comme auxiliaire de vie, dès son premier jour, elle travaille comme aide-soignante.
Bonjour. Ils vont me dire que je débutais, que j'étais pas diplômée.
Ses collègues ne sont pas vraiment surprises de la voir arriver sans aucune qualification.
C'est ce qu'on montre aussi dans le film, c'est que je suis pas la seule non diplômée. C'est du ressort du normal et du vécu pour ces gens-là.
Marie Maurice découvre les journées harassantes des aides-soignantes.
En fait, t'as pas beaucoup de temps pour les résidents, quoi.
C'est ça.
son grand désespoir.
La situation que la journaliste vit sous couverture n'a plus rien de surprenant, mais elle vient renforcer une certitude, la maltraitance est institutionnelle.
Il y a surtout une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la souffrance de ces personnels. Dans les pads où j'ai travaillé, ces gens-là étaient fatigués. Elles le disent, elles sont épuisées parce qu'elles trouvent qu'elles sont en manque de personnel, elles ne sont pas satisfaites du fait de ne pas avoir le temps suffisant pour s'occuper correctement de ces résidents-là. La maltraitance ne vient pas de ces gens-là.
Et c'est justement de les voir, ces gens-là, dans la réalité de leur travail, qui pourrait être un nouveau fardeau pour les EHPAD privés lucratifs.
Cache Investigation, c'est donc ce soir sur France 2. Allez, un peu de légèreté. Première demi-finale de la Coupe de France de football ce soir. Nice face à Versailles. Petite invitée surprise de National 2, 4e division. Un homme suivra cette actualité-là de très près. L'acteur de la Comédie française Denis Podalydès, Versaillais d'origine. Il en a parlé souvent dans ses livres et les films avec son frère. Mais il sera sur scène ce soir. Il parle de sa passion du football à Ilan Amour-Youssef.
Pendant le temps de la représentation, dans les scènes où je ne suis pas, je jette un œil sur mon téléphone. Maintenant, je peux suivre le match sur le téléphone. J'ai découvert le football, la Coupe du Monde 74. Et à partir de là, c'est devenu tout de suite, d'ailleurs, une sorte de passion un peu névrotique, avec des périodes où je me servais du foot vraiment pour surmonter d'autres difficultés. Je m'endormais en égrenant les noms des joueurs de foot. C'est même quelque chose que je fais toujours.
Mais vous avez un lien particulier avec ce club, le club de Versailles?
Que je suis Versaillais et que ce stade où il joue normalement, je le connais comme ma poche. J'ai passé le bac au stade Montboron, par exemple. Ma ville natale que je n'avais jamais associé à un club de prestige, d'un seul coup, c'est venu. Non mais c'est drôle d'accoler le nom de Versailles comme ça à du football. Vous imaginez pas Louis XIV en train de dribbler sur un terrain de foot. C'est ça aussi qui est savoureux. Cette ville qui a une image totalement guindée. Il y a d'un seul coup un Versailles populaire qu'on soupçonne pas qui apparaît, quoi. Voilà.
Denis Podalydès avec Ilan Amour-Youssef, coup d'envoi de ce Nice-Versailles à 21h demain, l'autre demi-finale. Nantes-Monaco. Dans un instant, on parle de météo.
Chaque région est une terre de lait. Présent dans 90% des départements français, que nous soyons éleveurs de vaches laitières, chauffeurs qui collectons chaque jour le lait dans nos campagnes, chefs de fabrication en laiterie ou encore fromagers à la coupe ou dans les caves d'affinage, nous sommes au plus près de vous. Mais ce n'est pas tout. Avec nos savoir-faire, nous nous engageons à vous offrir des produits laitiers de qualité pour vous nourrir aujourd'hui et demain. Retrouvez-nous sur vos marchés, dans vos rayons et sur franceterredelait.fr.
Après le succès mondial de L'Amie prodigieuse, le nouveau roman d'Elena Ferrante, La vie mensongère des adultes, vient de paraître en poche. Elena Ferrante nous emmène à Naples, à la rencontre de Giovanna, une adolescente qui va faire l'apprentissage de la vie adulte et du secret qui entoure sa famille. La vie mensongère des adultes, un roman éblouissant par Elena Ferrante, maintenant en poche chez Folio.
Et oui, nous allons parler de météo parce qu'il y a deux petits éléments pour détailler la météo. D'abord, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Météo France, juste un petit détail. On dit que c'est la fin de l'hiver météorologique depuis hier. C'est quoi la différence hiver météo, hiver calendaire?
Alors l'hiver astronomique ou calendaire va s'orienter plutôt sur l'orientation du soleil.
Oui.
Et donc avoir des dates qui sont fluctuantes, notamment au printemps et pour l'automne. En revanche, pour la météorologie, nous on se base sur des trimestres de mois entiers. Et donc l'hiver météorologique, c'est décembre, janvier, février.
Et donc vos collègues de Météo France viennent de dresser un bilan de l'hiver météo. Jean-Michel Soubérou est climatologue à Météo France. Il est avec Célia Kiré.
Ce que l'on a constaté cet hiver, donc, c'est la prédominance de conditions anticycloniques, des températures qui sont légèrement supérieures au normal, mais aussi un déficit de précipitations dans beaucoup de régions en France. Et ce déficit de précipitations, il est plus marqué depuis le début de l'année, notamment sur l'arc méditerranéen, mais on commence aussi à avoir des déficits sur d'autres régions comme les régions de la Loire. Donc c'est un point d'attention.
Et est-ce que ce risque de sécheresse se prolonge avec le printemps?
Alors donc les tendances climatiques que l'on a pour ce printemps, c'est justement que le scénario le plus probable, c'est un scénario chaud et un scénario sec. Alors c'est vrai que donc la combinaison de la situation actuelle où on a un début de sécheresse dans certaines régions et donc des tendances climatiques qui nous annoncent comme un scénario plus probable chaud et sec, ça amène à avoir un point d'attention qui devra être précisé dans les prochaines semaines.
Alors voilà donc pour l'hiver météorologique. Quel est le temps en ce premier jour du printemps météorologique? On voit ça dans un instant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Eh ben Sébastien, voilà le printemps, mais voilà la perturbation aussi.
Oui, cas d'école même de l'arrivée d'une perturbation par l'Atlantique, puisqu'entre le sud-ouest, le Limousin, la Bourgogne et les frontières du nord-est, on retrouve la marge avant de cette perturbation, composée essentiellement de nuages élevés, mais qui vont progressivement s'épaissir. Le ciel va même devenir laiteux entre l'Aquitaine et la Lorraine, alors qu'entre les Pyrénées centrales et l'Alsace, l'après-midi restera plus lumineux. En allant vers le nord-ouest, les nuages seront de plus en plus compacts, quelques trouées arriveront quand même à filtrer entre le Poitou-Charente, l'Île-de-France, les Ardennes et le nord, alors que le ciel sera tout gris entre les Pays de la Loire, le Pas-de-Calais et les côtes de la Manche. Et puis quelques pluies seront même possibles cet après-midi. Alors ces pluies sont essentiellement attendues sur la Bretagne et le Cotentin. Sur le quart sud-est, l'après-midi sera bien ensoleillé, hormis sur le Languedoc-Roussillon où les nuages vont s'accumuler sous l'impulsion du vent marin qui lui va se renforcer. Les températures restent au-dessus des normales saisonnières malgré une petite baisse. Cet après-midi, il fait 8 degrés à Lille, 12 degrés à Paris et Dijon, 14 degrés pour Lyon, Aurillac, Béziers et Ajaccio. On ira tout de même jusqu'à 20 degrés du côté d'Orthez.
Merci Sébastien Léas, Météo France, il est 13h30.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvy.
Si vous voulez absolument tout savoir du quinquennat qui s'achève, nous avons le livre qu'il vous faut. Et avec nous en studio, celle qui a rédigé ce livre. Bonjour Laurence Benhamou.
Bonjour.
Le solitaire du palais, le livre du quinquennat Macron, s'est publié chez Robert Laffont. Il faut que vous nous disiez qui vous êtes. Vous êtes l'accrédité de l'AFP auprès de l'Élysée. En quoi consiste votre travail? Parce qu'il explique la minutie de votre récit.
Alors, peut-être je vais quand même rappeler ce que c'est que l'agence France Presse.
Allez-y.
L'agence France Presse, c'est le journal des journaux.
Oui.
Donc, nous donnons des informations en temps réel, avec un maillage de journalistes partout sur la planète, à tous les médias.
Oui.
Les bandeaux sur les chaînes d'infos, les bulletins radio, tout ça sont largement basés sur nos dépêches.
Vous êtes la matière première de l'information.
Absolument. Mmh. Et l'AFP a des journalistes qui ont des rubriques, et l'Élysée, en quelque sorte, est une rubrique, oui, avec deux journalistes qui ne font que suivre le président où qu'il aille. Et la particularité, c'est que nous avons notre bureau à l'intérieur de l'Élysée depuis plus de 40 ans, dans une salle de presse qui se trouve dans le même environnement que le président, quel qu'il soit. Et grâce à cette position unique, nous sommes aussi d'abord au cœur de l'actualité. Et puis s'il se passe un événement imprévu, souvent une crise, nous pouvons nous embarquer dans le convoi de voitures qui part avec le président, si les équipes l'acceptent, pour suivre cette actualité, bien sûr.
Et vous dites dans la page de remerciement de ce livre que vous avez rédigé depuis 2017 4500 dépêches.
Bien sûr. Alors, une dépêche, c'est une alerte, c'est-à-dire cette ligne en rouge qui s'affiche dans les rédactions. C'est aussi...
J'ai l'écran devant les yeux. Là.
Voilà, c'est aussi toutes les informations, quelle que soit leur importance. Donc, c'est pas forcément une question de quantité.
Ouais.
Mais quand on est à ce poste d'accrédité à l'Élysée, ce qui signifie que nous suivons à la fois l'international, le national, tous les faits et gestes et les discours, bien sûr, mais toutes les actions que nous suivons et que nous essayons de comprendre du président, le nombre d'alertes qu'on fait pour un journaliste d'agence, c'est unique. Enfin, ça m'a jamais arrivé de ma vie. C'est tout à fait particulier.
Et pour donner une toute petite idée à nos auditeurs, le jour du déclenchement de la guerre en Ukraine, nous on est abonnés à deux agences, l'agence France Presse et Reuters, plus notre agence interne, il y avait plus d'une dépêche par minute. Voilà le rythme auquel l'information pleut, si j'ose dire. Laurence Benhamou, commençons par l'international, étant donné le climat. D'abord, quel climat règne-t-il en ce moment à l'Élysée?
Tout est axé sur l'international, bien sûr. Nous n'avons d'agenda que le jour même, voire pas du tout, voire au dernier moment, avec un agenda rempli de ces appels téléphoniques et de ces rencontres qu'organise Emmanuel Macron, qui s'est évidemment impliqué à 100% dans cette crise. Il va y avoir d'autres sujets qui peuvent quelquefois émerger, les équipes de campagne peuvent venir à l'Élysée, il va y avoir probablement un conseil de défense Covid, mais les 199% de l'action actuellement, telle qu'on peut la voir, c'est l'international.
Alors, juste... Et il y a un climat de gravité particulier ?
Bien sûr, bien sûr. À tel point que poser des questions sur d'autres sujets est compliqué, puisque tout semble un peu dérisoire aux yeux de l'Élysée qui... Toutes leurs équipes sont focalisées, évidemment, sur ce sujet.
Par exemple, le coup de fil Macron-Poutine hier, 1h30. Vous êtes prévenu comment? Comment vous pouvez le raconter? Comment ça se passe? Racontez-nous ces coulisses-là.
Alors, depuis le début de la crise en Ukraine, depuis à peu près un mois, la communication de l'Élysée a changé. Ils ont créé une boucle WhatsApp avec 300 journalistes, y compris des correspondants de journalistes de tous les pays, où ils rendent compte, après chaque appel, pratiquement après chaque initiative Emmanuel Macron de ce qu'il fait, parce que visiblement là, il veut communiquer, et ça c'est nouveau, c'est inédit. Nous sommes avertis juste avant du fait qu'il va y avoir un brief, un topo fait par le principal conseiller diplomatique, parce qu'il veut vraiment faire connaître son action. Donc c'est une proximité virtuelle. Ça change un peu par rapport à moi, ce que j'ai vécu pendant le quinquennat, ce que j'ai essayé de raconter dans ce livre, c'est que j'ai pu suivre en personne, j'ai pu voir ses déplacements, principaux ou pas d'ailleurs.
Non, c'est ça qui est frappant.
Chacun donne des détails intéressants.
Les petits et les grands.
Oui, chacun peut donner des détails révélateurs. Mais par exemple, j'étais quand il a reçu Vladimir Poutine.
Alors voilà, c'était la question.
Ou quand il a vu Donald Trump. Alors, moi, je pense tout le temps à cette rencontre à Brégançon. Donc nous sommes en août 2019, juste avant le G7 de Biarritz, qui doit être le grand moment diplomatique du quinquennat. Mmh. Et Emmanuel Macron a toujours eu à cœur, comme vous savez, entretenir un dialogue avec Vladimir Poutine. Il a changé un peu, il a changé beaucoup d'ailleurs, la doctrine en arrivant, son choix personnel. Et ce jour-là, à Brégançon, il fait très beau. Nous sommes un petit groupe de journalistes en bas du fort, devant la Méditerranée. Et on voit déjà dans le brouillard de beau temps une énorme frégate de guerre. C'est complètement incongru. Ouais. Gigantesque, qui croise au large de Brégançon. Et on nous fait monter tout en haut de cette petite butte, de ce petit promontoire qu'est le Brégançon, dans une petite cour fleurie, pour l'entrevue avec Vladimir Poutine. On entend un hélicoptère, il arrive, et nous savons qu'il voit la frégate. Et l'Élysée nous explique, attention, c'est un message cette frégate. Elle a servi en Syrie, c'est une des dernières nées de la flotte. Vladimir Poutine le sait, en diplomatie, ce genre de message est important. Ouais. Bon. Et sur ce, dans ce très joli endroit, on voit Vladimir Poutine qui arrive côté jardin. Emmanuel Macron est depuis quelques instants dans la cour avec son épouse. Il est tout sourire, comme je n'ai jamais vu sur aucune image, jusqu'aux oreilles, avec un gros bouquet de fleurs à la main qu'il offre à Brigitte Macron. Il y a une petite blague, il leur dit « Ah, vous avez bonne mine ». Emmanuel Macron lui dit « Brigitte, je vais m'en aller 2 heures ». Et ils vont sur le promontoire regarder la mer, après avoir fait une petite conférence de presse devant nous, sur les petits graviers de la cour. Et j'avoue que je ne cesse de penser à Vladimir Poutine et son bouquet et son sourire à ce moment-là.
La frégate et les fleurs. Est-ce que Emmanuel Macron a péché par naïveté au début de son quinquennat avec Vladimir Poutine, l'accueil à Versailles, il y a eu aussi cet épisode, et est-ce qu'il a changé d'attitude vis-à-vis de lui ?
Dans ce que j'ai vu, lui-même en tout cas ne s'est jamais considéré comme naïf. Je ne vais pas faire le commentaire. Hein. Je suis journaliste d'agence, j'essaie de raconter ce que j'ai vu. Il a toujours fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire il veut parler à tous. Et quand il a tenté cette réception de Vladimir Poutine tout au début à Versailles pour établir un dialogue, en même temps, dans la conférence de presse, il est assez dur sur le fait que les médias russes ont perturbé sa campagne. Bref, il a un ton assez dur. Tout comme quand il va vouloir parler même à Donald Trump, qui a évidemment des positions antagonistes. En même temps, il dit je sais très bien à qui j'ai affaire, et le montre quelquefois. C'est naïf. En tout cas, lui ne croit qu'à l'action, il ne croit qu'au dialogue, il pense que c'est la seule manière d'avancer en quelque sorte, et que de ne pas se parler ne sert à rien. Donc, il est très cohérent avec lui-même.
Une dernière question sur l'international, puis la parole aux auditeurs. Ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vraiment, effectivement, vous êtes factuel, journaliste d'agence, ça se voit, mais que les faits parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'à propos de l'international, on voit l'activisme extraordinaire de Macron d'Emmanuel Macron au début de son quinquennat, mais à chaque fois, c'est suivi par le fait que, au fond, que ce soit Trump, que ce soit Poutine, que ce soit Merkel même, ne suivent pas forcément son élan, si j'ose dire.
Absolument. Alors, il va nous dire, quelquefois, au moins, j'aurais essayé. On ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir essayé. Quelques jours après son investiture, moi je suis arrivée le 14 mai 2017, même jour que lui, dans cette forteresse militaire, il s'en va à Gao, 5 jours après, la grande base militaire au Mali. Et là, vous voyez qu'il prend la mesure de ce que c'est qu'être chef de guerre, chef des armées. Je le vois vraiment vibrer devant ses militaires et comprendre qu'il a cette puissance. Et il est certain qu'il prend la mesure de ce rôle international qu'il a toujours voulu avoir. Il est clair qu'il veut marquer l'histoire et qu'il a essayé d'intervenir, d'agir, disons, dans toutes sortes de conflits, d'être médiateur pour la Libye, pour le Haut-Karabakh, et quelquefois régulièrement, il n'a pas réussi, mais... quoi qu'il se passe, il va vouloir agir. Et c'est ce qui se passe actuellement, bien sûr.
Allez, au standard, la question de Frédéric. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour. En fait, c'est plus un avis qu'une question. Moi, je pense que son bilan, c'est un exercice solitaire et autoritaire du pouvoir pendant 5 ans, à mon avis. Un dévoiement de la démocratie aux dépens des autres instances avec lesquelles il aurait pu et il aurait dû partager le pouvoir du gouvernement aux citoyens, passant par le Parlement et les corps intermédiaires.
Alors, voilà pour l'avis de Frédéric. Il se trouve, Laurence Benhamouk, le titre de votre livre, c'est « Le solitaire du palais ». Il exerce le pouvoir en solitaire, Emmanuel Macron ?
C'est lui qui décide. Il le dit d'ailleurs. À la fin, que ce soit pour comment sortir de la crise des gilets jaunes, de confiner ou de ne pas confiner pour le Covid, il a décidé, la plupart du temps, tout seul, malgré quelquefois l'avis de son entourage. Par exemple, pour le grand débat, la grande majorité de son entourage était totalement contre cette idée. Pour ce jour de fin janvier 2021, où il décide de ne pas reconfiner, oui. Il va à l'encontre des experts, de la plupart des gens qui l'entourent. Alors, il y a toutes sortes de gens qui l'entourent. Hein. Tous veulent l'influencer, et il peut y avoir des grandes dissensions. Mais malgré tout, il va le dire lui-même, il prend son risque, il va décider lui-même, car il estime quelque part que au fond, un seul homme doit trancher. Et c'est le cas dans beaucoup des crises qui interviennent. Les fois où il s'est rangé à l'avis, disons, de ses proches, même si au départ, ce n'était pas son avis, il s'en est quelquefois plein, en quelque sorte, comme quand, par exemple, il maintient le premier tour des municipales, juste ouais. avant le confinement. Au départ, lui voulait les annuler. Il s'est laissé convaincre par son entourage. La même chose quand, au départ, il décide de ne pas supprimer la taxe carbone lors du début de la crise des gilets jaunes, et d'ailleurs elle va s'aggraver après, c'est parce que il comptait l'annoncer au dernier moment, nous raconte François Bayrou, il s'est rangé à l'avis d'Alexis Kohler et Édouard Philippe. Quand je dis au dernier moment, c'est dans les dernières minutes avant son discours.
Jean Hubert au standard. Jean Hubert, je vous demanderai d'être rapide s'il vous plaît.
Oui. Moi, ce que je vais retenir du quinquennat de Macron, c'est simple, c'est la phrase qu'il a dite fin juin 2017 à la gare d'Austerlitz ou à côté. La gare, c'est l'endroit où se croisent les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Donc pour moi, c'est vraiment le mépris de classe absolu et ça correspond au droit fil de ce qu'il a dit quand il était ministre de l'économie vis-à-vis des ouvrières qui travaillaient dans un abattoir breton, Gade. Qui étaient des analphabètes. Donc pour moi, c'est le mépris de classe.
Laurence Benhamou, ce qu'on peut dire factuellement, c'est que les petites phrases et les décisions prises au début du quinquennat ont coloré très fortement ce quinquennat, et on le voit encore dans la réaction de cet auditeur.
Certainement, nous-mêmes, nous avons été surpris de ces phrases quelquefois cassantes, oui. tout à fait choquantes, clivantes, et de leur répétition. Même chose, dans son entourage, il y avait des critiques, ou au contraire, on va le pousser dans une partie le pousser dans cette direction, pour le pognon dingue. Une partie, au contraire, essaye de le freiner, en disant, mais non, mais ça va pas du tout. Et lui-même, il est les deux. Il est quelquefois cassant et quelquefois très solennel, etc. Et vous avez vu, par exemple, même sur l'international, quand il dit l'OTAN est en état de mort cérébrale, c'est à peu près la même chose que les Gaulois réfractaires. C'est clivant et ça choque.
Vous êtes la journaliste accréditée à l'Élysée, donc vous allez nous dire à 13h43 quand Emmanuel Macron va se déclarer candidat, où et comment.
Alors, il a encore 3 jours, date limite vendredi 18h. Je ne sais même pas s'ils ont décidé. Les éléments que j'avais eus ont tous changé au cours de ces dernières semaines. À chaque fois, ce n'était plus ce qu'on me laissait entendre. Mais il a dit qu'il voulait gouverner jusqu'au dernier quart d'heure. Peut-être qu'il faut prendre littéralement.
Donc même vous, l'accrédité, à ce stade, vous n'avez pas les éléments.
Non, j'espère bien que je les aurai bientôt.
Merci beaucoup Laurence Benhamou d'être venue dans les studios de France Inter, le solitaire du palais, le livre du quinquennat Macron, c'est chez Robert Laffont. 13h44.
France Inter, le 13-14.
Suivre à suivre dans le 13-14, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Nouveau regard sur l'Ukraine, sa littérature aujourd'hui.
Deux grands écrivains, le plus connu du 21e siècle et le grand poète national du 19e.
À tout à l'heure. Le feuilleton, nous passons la semaine avec l'avocate spécialiste des affaires résolues Corinne Hermann. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Demain, ce sera l'anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg, 31e anniversaire. Un écrivain, chroniqueur, auteur de théâtre vous parle d'une de ses chansons aujourd'hui, le Belge Thomas Gunzig. Il vient de publier Le sang des bêtes, c'est aux éditions du Diable Vauvert.
Et c'est un roman savoureux, intelligent et drôle, impossible à lâcher. L'histoire de Tom, 50 ans, vendeur dans une boutique de compléments alimentaires pour bodybuilder. Rien ne va super bien chez lui, compliqué avec son épouse, avec son père, avec son fils. Et pas plus simple avec sa inconnue à laquelle il prête secours. Elle prétend ne pas être une femme, mais une vache génétiquement modifiée. Rencontre qui va évidemment bouleverser la vie de Tom, comme Gainsbourg a bouleversé celle de Thomas Gunzig, un chanteur qu'il a découvert adolescent avec son album « L'homme à la tête de chou ».
J'adorais l'idée d'album concept, je ne savais pas que ça existait. Un album qui raconte une histoire, c'était presque un roman. J'adorais ce personnage duquel je me sentais assez proche, qui se sentait moche. Un homme à tête de chou, moi aussi, j'avais l'impression d'avoir une tête de chou, des grandes oreilles, mal fichues. J'adore les mots, j'adore l'émotion qui peut surgir des mots, et Gainsbourg, c'était ça avant tout. Et puis c'est quelqu'un qui a eu le talent de mettre en musique sa poésie, comme je pense personne ne l'a fait. C'était à la fois un grand parolier, mais un grand raconteur d'histoire. Voilà, il y a ces personnages qui surgissent de toutes ces chansons et qui existent, hein, que ce soit l'homme à tête de chou, Melody Nelson, ou des personnages qui n'ont pas forcément de nom, comme ce personnage dans cette chanson Black Trombone, avec cette fille qui se trouve dans son lit. On a toutes ces images qui arrivent. Voilà, c'est la signature d'un grand auteur, quelqu'un qui arrive à faire surgir la réalité à travers juste quelques mots.
Black Trombone. Monotone, le trombone, c'est joli. Tourbillonne, gramophone, et bâillonne mon ennui. Black trombone. Monotone, autochtone de la nuit. Dieu pardonne la mignonne qui fredonne dans mon lit.
Cette chanson a 60 ans, Frédéric.
Précisément, elle est sortie en 1962 sur le 4e album de Serge Gainsbourg et c'est l'une des chansons préférées de Thomas Gunzig.
C'est une chanson qui me touche particulièrement, mais alors pourquoi elle me touche? Ça, c'est le grand mystère de la poésie. C'est une chanson dans laquelle se trouvent plein de choses qui, a priori, ne devraient pas se trouver dans le même texte. À la fois l'idée de la mort, l'idée de l'ennui, mais une certaine forme d'excitation. Puis on a l'impression d'arriver au terme de quelque chose, hein. Ça se termine par « J'abandonne, c'est fini ». C'est un vieil homme, on a l'impression, qui chante, qui a fait le tour de tout, et pourtant quelque chose le tient éveillé. La sensualité, la sexualité, l'érotisme. Mais tout ça chanté avec beaucoup de légèreté, dans laquelle, comme souvent avec Gainsbourg, se mélange une gravité incroyablement profonde.
Si on devait raconter ce qui se passe dans cette chanson.
Ça se passe une nuit. Un homme a l'air au bout de sa vie. Et malgré tout... Il y a le fil ténu de l'amour qui le maintient encore à quelque chose, mais il sent qu'il va se briser une fois que sera venu le jour.
Black trombone, monotone, elle se donne à demi nu, frissonne.
C'est une chanson que j'aime écouter parce que elle me reconnecte à cette conviction que la littérature et la poésie sont d'une puissance extraordinaire pour nous rappeler qu'on est des êtres humains, Et puis il y a ce cuivre qui accompagne toute la mélodie, qui est sublime, donc il y a un groove extraordinaire qui vous emporte dans cette musique grisante et intemporelle.
C'est une chanson qui vous donne envie d'écrire.
Ah oui, clairement, c'est une chanson qui donne envie d'écrire.
Plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini.
Black Trombone, Serge Gainsbourg. C'était donc Frédéric, le choix de Thomas Gunzig.
Dont le dernier roman formidable, Le sang des bêtes, vient de paraître au Diable Vauvert.
Le feuilleton une semaine dans la vie de Corinne Hermann, l'avocate spécialiste des affaires non résolues, alors que la justice inaugure aujourd'hui à Nanterre un pôle judiciaire dédié aux crimes en série et non élucidés avec 3 juges d'instruction. Dans cet épisode 2, on reparle du grêlé. Cet homme soupçonné de 5 meurtres dans les années 80-90 est retrouvé mort l'automne dernier, mais aussi d'Estelle Mouzin, une des victimes de Michel Fourniret. Il a fallu de longues années pour extorquer des aveux à Fourniret. Et puis on parle aussi des cartes et tableaux avec lesquels Corinne Hermann travaille. Feuilleton signé Corinne Audouin.
Par exemple, le grêlé, là, moi j'ai sur un des murs les photos de certaines victimes parce que j'ai besoin de savoir pourquoi je suis là le matin. Alors on a une carte de Paris, une carte routière, puis une carte agrandie et on a la carte des métros. On a posé les lieux des crimes. Moi, j'avais besoin de localiser sur Paris ses déplacements, où il avait tapé, comme on parle dans le métier, où c'était des mineurs et des majeurs. J'ai un tableau d'analyse avec les photos des victimes. Mais c'était important parce que des fois, le mode opératoire, il sort juste de cette analyse-là, de cette observation-là.
Vous travaillez à partir de criminels. Donc là, on a le grêlé. Cet homme a finalement été identifié. Il s'est suicidé. Il s'appelait François Vérove. Est-ce que vous cherchez s'il n'y a pas d'autres crimes qui pourraient finalement lui être attribués? C'est ça votre méthode de travail. Vous avez des crimes non élucidés, des disparitions d'un côté et des parcours de criminels de l'autre.
Là, sur le grêlé, on sait qu'on a un tueur en série. C'était même le seul qui était recherché. On sait qu'il a agi à Paris, dans la région parisienne. Donc, on va d'abord déjà comprendre ces crimes. Et puis, il y a tous les crimes qu'on nous signale, les personnes qui nous appellent. On a beaucoup de femmes qui nous ont écrit, pensant qu'elles avaient pu être victimes du grêlé plus jeune ou qu'ils l'ont reconnu quand il a été identifié. Donc, on va essayer de travailler là-dessus. Et j'ai besoin de visualiser pour ça les choses.
Ça veut dire qu'il n'y a pas 150 tueurs en série. Il faut quand même d'abord regarder ce qu'on connaît déjà. Et ça a été le problème d'Estelle. C'est que longtemps, les enquêteurs n'ont pas cru à la piste Fourniret comme si c'était trop évident.
En fait, quand on a des tueurs en série, on n'en a pas tant que ça. On en a plus qu'on ne pense, mais on n'en a pas tant que ça quand même. Ils ont un mode opératoire. Donc quand on a Michel Fourniret qui enlève des petites filles à la sortie de l'école ou à la sortie de boulangerie, et qu'on a Estelle Mouzin qui disparaît à un moment, il est libre à la sortie d'une boulangerie en sortant de l'école, ben on regarde. On vérifie son parcours, s'il est passé par là. Les juges devraient le faire automatiquement et j'espère bien que les juges du pôle auront pris ce réflexe. Je pense qu'ils le feront. Mais parfois, on n'a pas d'auteur. On a un crime et on se rend compte que dans une région, il y a d'autres crimes qui ressemblent. Donc là aussi, ça va être un autre point de départ. C'est notre crime. On va demander les autres procédures pour voir si dans les autres procédures, il n'y a pas des correspondances, puis surtout des auteurs, des suspects qui pourraient correspondre pour notre dossier. Moi, je fais toutes les semaines des demandes à des magistrats en disant, est-ce que vous pouvez vérifier le parcours de François Vérove, dit le grêlé, qui vient de se suicider? Est-ce que vous pouvez vérifier si l'ADN de ma victime n'a pas été retrouvé dans les ADN du fourgon Michel Fourniret? On nous a beaucoup taxé de coller des crimes à mes tueurs en série, d'en coller à Home, d'en coller à Fourniret, de voir du Fourniret partout. Non, c'est basique, c'est le métier, c'est le béaba d'un technicien. C'est comme si un expert en génétique vous disait, oh bon, moi je fais cette tâche-là qui est sous la poche de la chemise, mais je vais pas faire celle qui est sur la manche. Oui, c'est une trace de sang, mais je l'analyse pas. Mais au nom de quoi?
Ça a pris combien de temps avant que on aille vérifier la piste Fourniret vraiment dans Estelle et qu'on aille regarder les ADN sur un matelas?
Nous, on a mis 15 ans à se faire entendre. C'est ça qui porte tort aux familles, aux enquêtes. Les enquêtes, dès que vous avez un magistrat, des enquêteurs qui ont envie d'aller voir, qui vérifient, eh bien, quand on le fait, en quelques mois, les affaires sont résolues, quand bien même elles ont 35 ans.
travaillez en ce moment sur quoi? 7-8 séries criminelles, c'est ça?
Alors, je travaille sur plusieurs séries criminelles, effectivement. C'est d'abord des régions, c'est-à-dire c'est des crimes multiples dans une région. Je suis dans la presse, j'espère que quelqu'un sera interpellé, parce que peut-être ça répondra à certains de mes dossiers. C'était un petit peu ce que j'avais fait pour l'affaire de Perpignan, l'affaire des disparus de la gare de Perpignan, et où le coup de tonnerre tombe en 2014, quand Jacques Anson est interpellé, et où là, j'apprends qu'il habitait à Amiens, et moi, j'ai des dossiers non résolus à Amiens. Donc, je regarde tout de suite s'il était libre, s'il était là. Et donc, c'est pour ça que je surveille ces séries criminelles. J'ai pas de baguette magique, mais si on arrive à communiquer avec les juges du pôle criminel, je leur en parlerai. Peut-être qu'on pourra les saisir de ces affaires-là.
Ce pôle criminel qui est inauguré aujourd'hui.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire, Jean Lebrun, vous continuez à vous intéresser à l'Ukraine, son histoire, sa culture, aujourd'hui littérature. L'écrivain ukrainien le plus connu à l'extérieur, c'est sans doute le sexagénaire Andrei Kourkov, la traduction de son pingouin. C'est beaucoup vendu en France.
Alors le pingouin, c'était Micha. Vous savez, dans les années chaotiques d'après l'indépendance, le chaos est le milieu naturel des Ukrainiens, dit Kourkov. Le zoo de Kiev distribuait ses animaux à qui pouvait les nourrir. Et c'est ainsi que Micha, dans le roman, s'est retrouvé chez Victor, à charge pour celui-ci de trouver un nouveau métier afin de remplir le congélateur des innombrables poissons qu'engloutissait le pingouin, d'où une série d'aventures. Au moment de Maïdan, 2013-2014, Kourkov, toujours attentif aux animaux et aux zoos, avait noté que celui de Sébastopol, passé aux mains de la marine russe, avait voulu équiper ses dauphins et ses otaries de capteurs destinés à repérer les sous-marins. Alors selon Kourkov, l'Ukraine, qui n'avait qu'une seule Crimée et un seul sous-marin, avait perdu les deux. Le dernier livre de Kourkov, traduit ici, traite des abeilles du Donetsk. C'est l'histoire d'un apiculteur qui vivait dans la zone longtemps intermédiaire entre les armées russes et ukrainiennes et maintenant submergée par la première. On se demande où les ruches vont être transportées le printemps qui vient. Le narrateur d'un autre roman, qu'il y ait ou pas le secours des animaux, c'est toujours la même question qui est posée, dit « Enseigner l'histoire, c'est une tâche trop rude. Mieux vaudrait être gardien de nuit. »
Ce personnage, c'est Nikolaï dans « Encore un animal, le caméléon ».
Oui, l'emblème de ce livre, c'est le caméléon. Mais il y a aussi Chevtchenko. Kourkov, c'est l'écrivain aujourd'hui le plus connu d'Ukraine. Mais Chevtchenko, c'est l'écrivain mythique du mouvement national ukrainien au XIXe siècle. Dans le roman « Caméléon », Nikolaï a trouvé dans un appartement qu'il a acheté près de la cathédrale Sainte-Sophie un livre gigogne, un roman de Tolstoï évidé, où était dissimulé un plus petit ouvrage de Chevtchenko, lequel était annoté par un ancien lecteur énigmatique. Alors, Chevtchenko, né serf, affranchi, grand peintre autant que poète, il a été en 1847 condamné pour activité nationaliste ukrainienne et le tsar lui-même a voulu que ce fût un service militaire de 10 ans comme simple soldat avec interdiction totale de lire, d'écrire et de dessiner. Alors nous sommes toujours dans les années d'après l'indépendance et dans l'esprit fertile de Nikolaï naît l'idée de partir vers le lieu de détention de Chevtchenko. Peut-être y a-t-il dissimulé un trésor de textes qu'on pourrait par exemple vendre aux enchères à l'étranger parce que les Ukrainiens de la diaspora sont si sentimentaux.
Et le voilà parti vers ce qu'on appelle dorénavant Fort Chevtchenko.
Alors c'est maintenant au Kazakhstan. Une aubergiste qui l'accueille s'étonne. On est quand même dans une drôle d'époque. Après la fin de l'URSS, tout le monde voulait autrefois aller voir les endroits où Lénine et Brejnev avaient vécu. Maintenant, chaque pays de l'ex-URSS à son idole. Alors, avant de mettre la main sur un éventuel inédit de Chevtchenko, Nikolaï va trouver une épouse. Figurez-vous que le grand poète devenu soldat aurait fait un enfant à une Kazakhe et qu'en serait née une lignée de bardes et d'aèdes qui composèrent des chants que la mémoire orale a conservé. Julia, qui va devenir la compagne de Nikolaï, la deuxième héroïne du livre, appartient à cette lignée qui est capable de vous mettre en vers un article de la Pravda et de le transfigurer.
C'est presque une mythologie. Et les textes inédits de Chevtchenko?
Attendez, sachez tout de même que Chevtchenko, qui a renouvelé l'ukrainien, pouvait écrire aussi en russe.
Tiens.
Alors peut-être que le manuscrit recherché pourrait être en russe. Comme dit Kourkov, la langue n'est pas le premier caractère national. Sinon lui-même, qui écrit en russe, ne serait pas citoyen de la République ukrainienne indépendante. Ou encore un violeur qui parle ukrainien serait systématiquement meilleur qu'un violeur qui parle russe. Et le texte de Chevtchenko, recherché, ne sera pas nécessairement grandiose. Il pourra y traiter de choses triviales, des mots d'amour à une petite amie. Le poète lui-même disait « J'élèverai au nu les esclaves, les petits et les muets, en garde fidèle. Parmi eux, je porterai parole. » J'ajoute que Chevtchenko est mort le 26 février 1861, l'année où fut enfin aboli le servage dans l'Empire russe. Et le 26 février, bah, c'était samedi.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Demain, le 13-14, participe à la journée solidarité avec les Ukrainiens sur toutes les antennes de Radio France et sur France Inter en particulier. On sera auprès de la communauté ukrainienne et avec des responsables d'associations pour voir à la fois comment distribuer l'aide et organiser l'accueil. Et vous serez avec nous, Jean Lebrun. Bonjour Mathieu Vidard.
Oui, bonjour Bruno.
La Terre au carré dans quelques petites minutes.
Et on va parler des petits mammifères des villes aujourd'hui.
À tout de suite, petit Mathieu.